Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes en studio avec Eva Bonnet. Eva, bonjour.
Bonjour Marianne.
Certains connaissent votre nom, d'autres connaissent votre compte. Bonjour Mate, puisque vous avez un compte Instagram qui est suivi par, accrochez-vous bien, 460 000 personnes, c'est énorme. Ces followers qui suivent vos aventures et regardent vos vidéos qui jouent sur la double culture franco-australienne, on va en parler dans un instant. Mais déjà pour vous présenter, Eva, vous êtes née à Saint-Tropez, dans le sud de la France, il y a 36 ans.
C'est exact.
Vous êtes née d'une maman anglaise et d'un papa français, donc vous avez toujours baigné dans cette double culture. Puis en 2019, vous avez rencontré un homme, c'est devenu votre mari.
Oui.
Vous avez eu deux enfants, vous avez deux chats aussi. C'est important, faut jamais oublier les animaux. Je trouve que du moment où on a des enfants, et les gens oublient que nos animaux, c'est aussi nos bébés.
C'est vrai, et nous, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire pour prendre des photos de Noce et Dia chaque jour, parce qu'avant, on prenait des photos de tout le temps. Et ça a vraiment chuté.
Eva, votre compte cartonne, notamment, on l'a dit, grâce à vos vidéos légères sur la parentalité, être une maman française en Australie. Comment ça se passe? Eh bien justement, comment ça se passe d'être une maman française en Australie? Est-ce que c'est différent que d'être une maman française en France?
J'ai toujours été maman que en Australie, donc est-ce que je peux parler avec expérience? Peut-être pas tout à fait, mais en étant française et en ayant donc observé d'autres mamans comme ma sœur et mes amis, je trouve que effectivement les mamans en Australie ne sont pas tout à fait pareilles que les mamans en France. Je pense que en France, la maman française est bien que aimante, peut-être un peu plus exigeante que la maman australienne, qui me semble plus dans le gentle parenting.
Justement, en ayant fait ce constat, vous jouez sur les clichés quand on regarde votre
compte. J'exagère.
Et ça fonctionne?
Oui.
Est-ce que c'est des Australiens qui vous suivent et qui justement se disent « Oh, mais ce cliché français me plaît bien » ou est-ce que c'est quand même plus une communauté francophone?
C'est vraiment une communauté très diverse, mais beaucoup d'Australiens, effectivement, et beaucoup d'anglophones en règle générale. Donc, il y a un public américain et anglais aussi. Et il y a des Français.
Évidemment. Ce compte, vous l'avez créé il y a 2 ans sur TikTok, et ensuite vous êtes allé sur les autres réseaux sociaux. Et à la base, c'était pas du tout pour publier une dizaine de vidéos par jour et faire rire des clichés. C'était pour faire un peu de français avec votre premier petit garçon, Bastien.
Oui, c'est exact. Vraiment, lorsque Bastien est né, j'ai eu une envie de transmettre ma culture française et surtout la langue française. Donc, je me suis mise à faire des petites vidéos avec Bastien qui étaient vraiment toutes mignonnes. Souvent, je peignais ou je dessinais un fruit et je disais le nom du fruit en français pour lui apprendre avec une petite image de Bastien. Et puis, ça a progressé. C'est devenu quelque chose qui me passionnait. J'ai reçu beaucoup de retours très positifs. Et voilà.
Eva, on le voit quand on regarde vos vidéos, quand on vous suit sur les réseaux, on le voit également quand on vous connaît en vrai, vous êtes toujours extrêmement chic, magnifique, très apprêtée, en vrai, entre nous. Eva, est-ce que parfois vous vous laissez aller?
Bien sûr, absolument. Il ne faut pas me voir le matin au réveil. C'est un mix de pull, pyjama sympa, mes shorts qui ne matchent pas. Non, c'est pas. Non, je ne suis pas parfaite.
Là aussi, peut-être un petit cliché à la française.
C'est gentil, mais c'est notamment grâce à Blue Illusion pour qui je suis brand ambassador.
Et vous disiez tout à l'heure les vidéos avec Bastien où vous lui faisiez apprendre le français, ça a très bien fonctionné. C'est sûrement ça qui vous a donné l'inspiration ensuite de donner des cours de français. Vous faites du tutorat.
Oui, c'est exact. En fait, en faisant ces vidéos, c'est venu naturellement. Les gens ont commencé à me demander, mais est-ce que tu donnes des cours de français? Alors, j'avais déjà donné des cours de français ici et là dans le passé avec des Australiens avec qui je travaillais. On se réunissait dans des cafés, je donnais des petits cours de français avec un café, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est venu naturellement et je voulais pas me lancer dans quelque chose où je promettais une formation pour passer des tests de niveau et tout ça, mais juste quelque chose qui permettait à ceux qui sont passionnés du français et qui veulent développer leur level of French conversation et puis aussi juste se détendre et passer un bon moment avec d'autres francophiles. Je me suis mis naturellement à proposer des classes qui permettent à toute personne qui est intéressée de se joindre.
Et pour aller même plus loin, au-delà des classes en ligne ou autour des cafés, vous organisez des retraites, parlez-nous-en.
J'ai organisé ma toute première retraite de langue française, donc un petit séjour immersif qui était en Australie, donc quelque chose de pas compliqué à mettre en place dans le sens où c'est ici en Australie qui permet à tout le monde de profiter un peu de culture française et de pratiquer le français, tout en n'ayant pas besoin de faire 24 heures de vol.
Et c'était une bonne ambiance. Comment ça s'est passé? Vous avez parlé français tout le week-end, mangé des spécialités?
Soyons honnêtes, on a parlé de l'anglais aussi, mais on a essayé quand même de parler français. Tout le monde s'est extrêmement bien entendu. Elles l'ont toutes dit que c'était un groupe exceptionnel et c'est vrai. Elles avaient vraiment au cœur la passion de la France et du français. Elles partageaient ça et ça a fait qu'elles se sont unies. Ça s'est très bien passé.
Voilà. Super, donc vous allez en refaire?
Oui, à 100%. Sauf que j'espère que la prochaine fois, je dormirai, parce que j'ai pas dormi pendant
stress,
une semaine de l'angoisse. J'espère que la deuxième fois, je dormirai un peu plus.
Donc vous savez que ça s'est bien passé.
Oui.
Eva, il y a un aspect qu'on connaît un petit peu moins, mais qui explique sûrement beaucoup de choses quand on vous connaît aujourd'hui, le côté très résilient, très souriant. C'est votre combat contre la maladie. En 2020, un an seulement après avoir rencontré votre compagnon et alors que vous n'aviez pas encore d'enfant, on vous a diagnostiqué, si je ne me trompe pas, un cancer des os et on vous a dit que vous n'auriez pas d'enfant.
Oui, on m'a dit effectivement que c'était presque certain, que ça serait difficile en tous les cas d'avoir des enfants. On m'a proposé de voir un fertility doctor. Très sincèrement avec vous, lorsqu'on m'a annoncé ça, moi j'étais dans la peur de ce qui m'attendait et c'était vraiment pas important quand on me l'a dit.
D'accord, malgré le fait que 30 ans, c'est souvent l'âge où on veut fonder une famille.
Et effectivement, mais moi, j'étais pas encore là dans ma tête. Et vraiment, j'avais tellement peur. J'ai su après, donc j'en ai parlé avec mon copain, ça faisait qu'un an qu'on était ensemble, effectivement. Et j'ai su après que sa famille lui ont parlé lorsque je n'étais pas présente et lui ont dit... Est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages? Est-ce que pour toi c'est un deal breaker de ne pas avoir d'enfant? Et j'ai su après qu'il leur a clairement dit non, pas du tout, on aura des chats et on voyagera.
Et l'année de votre chimiothérapie, comment ça s'est passé? Vous avez tout de suite su que vous alliez vous en sortir?
Non, j'ai eu très peur. J'avais ce qu'on appelle ostéosarcoma high grade. Avec ostéosarcoma, le problème, c'est que c'est quelque chose qui paraît isolé, mais en réalité, ils sont obligés de le traiter comme si c'était un cancer systémique, parce que malheureusement, très souvent, sans qu'on s'en aperçoive, et de nulle part, ça passe dans les poumons. Ça commence dans les os, et pour une raison ou pour une autre, ça termine dans les poumons. Et en général, lorsque ça se termine dans les poumons, c'est véritablement très mauvais. Donc j'avais très peur, mais on m'a donné une chimiothérapie qui était radicale. Et c'était très difficile, mais on m'a rassurée. Voilà, on m'a rassurée. J'avais des super docteurs. On m'a rassurée quand même. On m'a pris la main, on m'a rassurée.
Et là, vous vous êtes dit, votre conjoint, il a été formidable, c'est le bon.
Il a été incroyable. Il a passé la nuit à l'hôpital avec moi. Tant qu'il pouvait, après les restrictions Covid sont devenues plus sévères, il n'avait même plus le droit de m'emmener jusqu'à mon ward. Et c'était très difficile. Je hurlais. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je hurlais, je pleurais. Je hurlais. Il fallait que des infirmières viennent me soulever du sol. C'est très difficile dès le départ. Mais en plus de ça, au fil des semaines, lorsqu'on vous rajoute des traitements, vous devenez très faible. Et ça devient très difficile à supporter, mentalement, physiquement. Ouais.
C'était il y a 5 ans, et oui. Vous êtes en rémission aujourd'hui?
Ouais, je suis en rémission et j'attends donc les 5 ans de rémission qui seront en décembre.
Est-ce que vous avez des projets pour la suite?
Oui, alors je veux effectivement, donc avec Bonjour Maître, aller plus loin. Je suis en train de travailler sur une plateforme qui me permettrait de faire des choses plus interactives. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, mais j'aimerais avoir quelque chose qui permette aux gens de s'entraîner, enfin des choses plus interactives. Donc je travaille sur ça. J'ai des projets de vivre en France aussi avec ma famille. On espère pouvoir faire au moins 6 mois de l'année, ci et là, en France. Et puis... j'ai la chance de pouvoir faire ça de là-bas aussi. Et puis, quoi d'autre? Voilà, ça, c'est mes projets principaux en ce moment, en tous les cas.
Où est-ce que vous trouvez le temps? 2 enfants, une famille, un travail, du sport? C'est quoi votre secret?
quelque chose quand même qui est important, parce que j'ai dit que lorsqu'on m'a annoncé que je pouvais pas avoir d'enfant, j'étais pas désarmée. Mais je veux quand même dire quelque chose d'important, et c'est, j'en viens à ça. C'est que, après le traitement, c'était la partie la plus difficile, les mois qui ont suivi. Je suis vraiment tombée dans un gouffre dépressif où je voulais ma vie d'avant. Où je ne me reconnaissais pas physiquement, mentalement, je ne me sentais pas bien. Et quand je suis tombée enceinte de Bastien, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je l'ai gardé un secret, je ne l'ai même pas dit à mon mari pendant presque 2 semaines, parce que je me suis sentie tellement bien d'avoir ce secret. Et il a ouvert une nouvelle porte sur la vie. Je ne veux absolument plus ma vie d'avant, parce que c'est la vie avec Bastien et maintenant Maxime aussi qui est celle qui compte et qui est la plus merveilleuse. Et puis avec Christian, on s'est marié et tout ça. Tout ça pour dire, je trouve pas beaucoup de temps. J'ai vraiment très, très peu de temps. Mais vraiment, je pense que c'est grâce à eux si je fais tout ce que je fais. Sincèrement.
Un entretien en pureté, tout en authenticité. Merci beaucoup, Eva.
Merci à toi, Marianne.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.